Alors, c'est une cassette audio, donc le son pleure un peu, ce qui va bien avec le morceau. Mais en même temps, c'est intéressant, finalement, ces empreintes sonores des supports. Dans sa philosophie du cinéma, Deleuze parle à un moment de la mise en abîme, chez Vertov, je crois. Enfin, il parle de la mise en abîme. Il a une très curieuse approche de la mise en abîme. Il dit que la mise en abîme au cinéma, c'est l'argent. C'est-à-dire, c'est l'argent dans la mesure où ça renvoie toujours au fer du cinéma, à la fabrication du cinéma. Et ce fer du cinéma, eh bien, c'est une manière de dire, voilà, il y a de l'argent à l'œuvre. Et quand on connaît l'importance de l'argent, aussi bien pour faire des films que pour les mener à leur terme, quand on connaît l'importance du cinéma également en tant que thématique, de Wells à Bresson, encore une fois, c'est tout à fait décalé et atypique. Et pour comme ça, pour calquer cela sur le rock, je me demande si il n'y a pas en sous-main, comme ça, une espèce de mise en abîme dans le rock qui serait la question de la mélodie. La mélodie est un élément important du rock parce que, bon, évidemment, ça préfigure une réussite commerciale des chansons, des tubes. Et Lou Reed, de ce point de vue-là, avec sa voix, l'une des plus belles voix du rock, enfin, à la fois juvénile et ambiguë, étrange. Lou Reed compose des mélodies absolument extraordinaires. Mais il me semble justement que la mélodie, c'est l'une des pointes de fièvre du rock parce qu'elle désigne précisément l'incomplétude du rock. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, cette espèce d'inachèvement de la musique rock. D'une certaine manière, je suis plus intéressé par le moment où le morceau se termine que par le moment où il commence. C'est-à-dire que quand un morceau de rock s'achève, finalement, l'espèce de spirale onirique dans laquelle il emporte l'auditeur, elle se brise. Et là, il y a un retour qui est le retour au réel. Et ce retour au réel, c'est inévitablement lié à l'incomplétude de l'art et l'incomplétude de ces morceaux brefs qui ont la capacité à transporter de manière planétaire, du reste. Voyons, il y a des succès musicaux planétaires. Mais précisément, ensuite, ça retombe. Et le moment où ça s'achève, je trouve que c'est la signature de l'incomplétude du rock qui est particulièrement vive et qui, je trouve, est un peu en sous-main, ce qui fait aussi la très grande modernité et étrangeté de cet espace. Alors, effectivement, la mélodie chez Lou Reed, il y en a, elle est souvent bouleversante et elle est souvent très ambiguë. Alors, cette ambiguïté, elle est au cœur du rock. Cette ambiguïté, ce sont bien sûr les limites, la transgression des limites, l'androgynie, des questions liées au désir, au sexe, à la drogue. Lou Reed a complètement creusé cet espace-là par sa poétique. Alors on va en parler, mais après écouter deux morceaux qui vont définitivement installer l'ambiance, c'est un album qui suit Transformer, on est en 1973, et une fois de plus, c'est Berlin. Pourquoi Berlin? Parce que Berlin représente, encore une fois, dans ces années-là, un espace tout à fait extraordinaire. Berlin représente une ville d'inventivité, une espèce de no man's land. Je vous rappelle que Berlin est une ville de l'ouest à l'est. Et donc, c'est une espèce de no man's land propice à la créativité, propice aux excès. Et de nombreux artistes iront se ressourcer dans un Berlin fait de marginalité, de drogue, d'inventivité, de transgression. Un Berlin qui est aussi un espace utopique. Enfin, l'utopique, c'est le non-lieu, et Berlin est ça par définition. C'est bien sûr là où Bowie ira créer sa fameuse trilogie avec Brian Eno, dont on parlera tout à l'heure. Mais préalablement, il y a quelques années avant, Lou Reed qui crée donc cet album Berlin, dont on va écouter les deux premiers morceaux. Berlin, le premier morceau qui a le titre qui est éponyme, titre éponyme, c'est-à-dire qu'il donne son titre à l'album. Au début, on entend. Alors là, ça pleure définitivement, hein, tout est confus. Et d'ailleurs, on entend à peine la voix du chanteur. La musique est très jazzy. Enfin, c'est vraiment le piqué de Thelonious Monk. Et c'est vraiment le piano fait solitude. Et ensuite on part sur une autre écriture musicale.